Et à 3 semaines maintenant de la COP21, les débats sur le climat ont déjà le mérite d'avoir mis en lumière les relations que nous entretenons avec la nature, mais aussi les questions que nous nous posons parfois pour pouvoir agir individuellement. Sommes-nous vraiment enclins à modifier nos comportements pour réduire la crise environnementale qui menace la planète? Cette question intéresse particulièrement le champ de la psychologie sociale, appelée pour l'occasion psychologie de la conservation. C'est le dossier aujourd'hui de la Tête au Carré en partenariat avec le CNRS à l'occasion de son nouveau forum qui va se tenir vendredi et samedi à la Sorbonne à Paris. Et puis les économistes s'intéressent également à la crise climatique et aux inégalités sociales qui l'accompagnent. C'est à la une du climat aujourd'hui, Axel Villard. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, un groupe de chercheurs de l'école d'économie de Paris montre que seulement 10% des individus les plus riches de la planète sont responsables de la moitié des émissions de CO2 chaque année. De nouveaux résultats qui pourraient amener à revoir la répartition de l'effort climatique à venir. On en parle dans un instant avec nos invités.
Voilà donc pour le sommaire de cette Tête au Carré réalisée aujourd'hui par Stéphanie Texier et qui a été préparée par Emmanuel Fournier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Nos motivations, nos comportements individuels face aux questions environnementales, donc le dossier dans un instant. Anne-Caroline Prévost, Barbara Bonnefoy et Brigitte Perruca, bonjour à toutes
bonjour.
Les trois.
Bonjour.
Bienvenue Brigitte Perruca, comment mieux nous comporter pour la protection de l'environnement? C'est un des sujets des nombreuses tables rondes qui seront donc proposées à la Sorbonne vendredi et samedi dans le cadre de votre forum. Et alors cette année vous êtes 100% climat?
100% climat, mais au sens large. Puisque avec 100 chercheurs présents, on espère aborder notamment la question des pôles, des océans, des villes et bien d'autres encore.
On en parlera plus longuement avec vous dans un instant. Anne-Caroline Prévost, est-ce que nos cultures occidentales ont sérieusement perdu le lien avec la nature?
Sérieusement, peut-être pas. Mais en tout cas, nos modes de vie, avec l'urbanisation, la vitesse de nos vies, le fait qu'on est souvent très pressé et très peu enclin à prendre un petit peu de temps pour aller juste se reposer, prendre l'air et mettre les pieds dans l'herbe. Ça a sérieusement changé, probablement.
Bon, mais tout n'est pas perdu, puisque vous étudiez, on le verra, les initiatives que les citadins développent pour se reconnecter, justement, avec la nature. Barbara Bonnefoy, la psychologie sociale donc s'intéresse maintenant beaucoup aux comportements à adopter pour préserver au mieux l'environnement. C'est un champ disciplinaire donc qui est très à la pointe dans ce domaine.
Oui, effectivement. La psychologie sociale applique en fait ces modèles et notamment l'idée que les contextes sont normatifs et influencent nos comportements et plus précisément en ce qui concerne les comportements écologiques peuvent les modifier.
Donc il y a plein de choses évidemment à en tirer.
Exactement.
Et vous allez nous livrer déjà vos observations dans ce domaine, ça nous intéresse beaucoup.
Avec plaisir.
On va se retrouver dans un instant donc avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de la Tête au Carré.
La Une du Climat, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Bonjour Hervé Kempf.
Bonjour.
On vous retrouve comme tous les lundis avec Reporter.net pour d'abord un petit tour de l'actualité climatique. Quelles sont les nouvelles cette semaine? Trois principalement à retenir.
Ce matin, l'Organisation Météorologique Mondiale nous annonce qu'en 2014, nous avons battu, nous, c'est-à-dire l'ensemble des humains de la planète, la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Quelques chiffres un peu difficiles à retenir, mais voilà, ils sont là. 397,7 parties par million de gaz carbonique en moyenne. Méthane, dont on a parlé récemment à la Tête au Carré, très importante, jamais oubliée, 1833 ppm en 2014. Et le protoxyde d'azote, à ne pas négliger non plus, il vient notamment de l'agriculture, 327,1 par milliard, c'est aussi très important.
Bon, et c'est pas bon évidemment comme chiffre. Autre information?
60 ministres de 60 pays, de très haut niveau, au niveau de Laurent Fabius, réunis pour 2 jours à Paris pour préparer la COP21. Et puis, troisième nouvelle, un rapport important de la Banque mondiale qui vient d'être publié et qui dit « Si le changement climatique continue comme en ce moment, plus de 100 millions de personnes supplémentaires vont chuter en dessous du seuil de pauvreté d'ici 2030, c'est-à-dire de manière très rapprochée, notamment en Afrique. » Et l'enjeu essentiel, c'est en raison de l'impact sur l'agriculture du changement climatique.
Et à la une, justement, aujourd'hui, nous accueillons Lucas Chancel. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur du rapport mondial sur les inégalités à l'École d'économie de Paris, chercheur à l'IDRI pour Sciences Po. Et votre travail est intitulé « Carbone et inégalités de Kyoto à Paris », mené avec l'économiste Thomas Piketty, est assez nouveau, justement, dans la répartition des responsabilités face à la crise climatique. Avant de vous entendre, Hervé, un résumé, au fond, de ce qu'il faut retenir de cette étude?
Tout à fait. Donc, l'étude de Lucas Chancel et de Thomas Piketty, économiste très célèbre pour ses travaux sur l'inégalité. Messieurs Chancel et Piketty se sont inscrits dans un domaine de recherche qui était un petit peu oublié, en tout cas un peu souterrain, au début des années 2000, avec notamment une publication de Chakravarti très importante en 2009. Ils font d'ailleurs dans leur étude une très bonne revue du travail antérieur. Et qu'est-ce que reprennent comme chantier Piketty et Chancel? Eh bien, l'idée qu'il ne faut pas raisonner seulement en termes de pays, les États-Unis, la Chine, la France, le Brésil, mais s'intéresser au niveau de revenus. Oui. C'est-à-dire, en cherchant à vérifier l'hypothèse qu'il y a, en gros, plus vous êtes riche, plus vous émettrez de gaz à effet de serre, et donc d'analyser qu'est-ce qui peut se passer si on raisonne en termes de niveau de revenus sur l'ensemble de la planète. Une remarque rapidement, les inégalités entre les différents pays ont décru. En revanche, au sein des différents pays, de chaque pays, les inégalités se sont accrues et donc ça a des conséquences sur les émissions de gaz à effet de serre et du coup les pronostics les prescriptions que ces économistes vont nous donner.
Lucas Chancel, on vous écoute maintenant. Pourquoi présenter ce travail aujourd'hui sous ce nouvel angle ?
Eh bien, d'abord,
donc celle des inégalités sociales, en l'occurrence.
Tout à fait. Donc celle des inégalités sociales entre pays et non pas uniquement à l'intérieur des pays, excusez-moi, et non pas uniquement entre pays. Bien, tout d'abord, peut-être ces débats depuis quelques années sur la montée des inégalités à l'intérieur des pays, dont on a beaucoup discuté et dont les travaux de Thomas Piketty ont notamment contribué à faire monter le débat public sur ces questions. Et puis, évidemment, on est à la veille de la COP21 et donc c'est le moment de discuter de ces enjeux et c'est le moment notamment de relier deux questions qui n'ont pas forcément toujours été liées par le passé, c'est celle des inégalités sociales donc à l'intérieur des pays et la question environnementale. Donc voilà pourquoi nous on a fait ce travail avec une deuxième question qui est posée peut-être un peu plus technique, c'est celle de la question du financement de l'adaptation au changement climatique. L'adaptation au changement climatique, donc c'est lutter contre tous les dégâts déjà existants et on voit que ce financement est largement sous-approvisionné. Seulement 10 milliards par an, alors qu'il en faudrait, selon l'ONU, 150 milliards.
Vous le dites là, c'est 10% qui participent pour 50% des émissions de gaz à effet de serre. Qui sont-ils ces 10% dans le monde ?
Alors, ce qu'on met en avant, justement, c'est que ces 10%, ils sont donc ces 10% les individus les plus émetteurs. Donc ce sont ceux qui émettent 2,3 fois plus que la moyenne mondiale. La moyenne mondiale étant à 6,2 tonnes de CO2 par an par personne. Pour donner un chiffre, un Français moyen est à environ 9 tonnes. Donc ces 10%, eh bien, ça va être des individus à 2/3 venant des pays développés. Et à 1/3 venant des pays émergents et en développement. Donc on retrouve déjà les classes aisées et supérieures des pays en développement et émergents.
Donc ça veut dire quoi ? Qu'aujourd'hui le problème climatique c'est avant tout un problème d'inégalité sociale ?
Alors ça veut tout à fait dire qu'on ne peut plus regarder uniquement le problème comme un problème de pays contre pays ou de bloc de pays contre bloc de pays.
Il faut regarder dans les pays.
Et il faut regarder donc la distribution des revenus ou des émissions au niveau mondial, mais casser aussi les frontières entre pays.
Et en regardant dans les pays, vous allez même jusqu'à proposer des solutions. Par exemple, taxer fortement les billets d'avion en première classe. Pourquoi particulièrement le transport aérien ?
Alors, le transport aérien, pour nous, répond à un double critère. C'est un marqueur à la fois d'un niveau d'émission relativement élevé et c'est un marqueur de richesse au niveau mondial. Donc, une taxe sur les billets d'avion qui pourrait être différenciée entre classe économique et classe business, c'est un moyen justement de faire contribuer les grands émetteurs et les émetteurs qui ont les moyens de contribuer à cet effort.
Ouais, c'est important dans le cadre d'une telle étude aussi d'associer des solutions très concrètes tout de suite pour ceux qui vont lire justement votre travail.
L'idée, évidemment, n'est pas uniquement que de produire des statistiques pour produire des statistiques, c'est de produire des statistiques pour essayer de venir nourrir un débat public.
Dans ce contexte, vous proposez plusieurs scénarios pour venir en aide à ce fonds de solidarité. Quelle serait la contribution de ces 10%?
Alors, donc, effectivement, notre travail nous permet de faire plusieurs pistes, plusieurs propositions. Donc, dans une des propositions, tous les émetteurs qui sont au-delà de la moyenne mondiale vont contribuer. Dans une autre proposition, c'est uniquement les 10% les plus émetteurs. Mmh. Et on a encore aussi une proposition où c'est les 1% les plus émetteurs. Nous, on n'a pas la stratégie idéale, mais on propose des pistes pour le débat, des éléments de cadrage. Et on voit que, par exemple, dans la stratégie où sont les 10% les plus émetteurs qui vont contribuer à ce fonds, eh bien, 46% des efforts viendraient des États-Unis, 15% de l'Europe et 11% de la Chine. Donc c'est quand même assez considérable. Mais cela dit, le fait de réintroduire les Chinois dans ce paquet ne dédouane pas pour autant les Européens et les Américains qui vont devoir augmenter leur contribution de manière massive.
Est-ce que c'est une redistribution au fond de l'effort climatique aussi, en regardant les choses par ce prisme-là, précisément, des inégalités sociales ?
Donc tout à fait, ça rebat un peu les cartes du jeu. Ça permet d'intégrer les classes moyennes et supérieures des pays émergents. Mais encore une fois, l'essentiel de l'effort, finalement, reste chez les Américains et les Européens.
Eric Kempf.
Mais dans une logique où, et ça, le travail reste peut-être au bord un peu de ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que ça implique que dans ces États, il y ait une contribution différenciée entre les très riches et les classes moyennes et les pauvres.
L'application de vos préconisations doit se faire État par État ou d'un point de vue global, international ?
Alors, si on prend l'exemple de la proposition de la taxe sur les billets d'avion, bon, là, on a déjà, on peut partir de l'existant. Cette taxe existe déjà. Elle a été mise en place après 2005 pour financer des programmes de lutte contre les maladies. Une dizaine de pays appliquent déjà cette taxe. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de la généraliser, d'augmenter son niveau et de flécher les recettes à des fonds climat. Une autre option, ça peut être de taxer les revenus au niveau de chaque pays. Et ce qu'on montre dans l'étude, c'est par rapport au niveau d'émissions nationaux, quel revenu en France correspond à tel seuil d'émission. Alors, c'est une solution qui est imparfaite, puisque comme chacun sait, le revenu, c'est un plutôt bon prédicteur des émissions de CO2, mais ce n'est pas un prédicteur parfait. Donc il y a des exceptions. Donc l'idéal, ça serait d'avoir les informations précises au niveau individuel sur les émissions de CO2, ce qu'on n'a malheureusement pas aujourd'hui.
Combien de milliards il faudrait à peu près pour participer à l'effort climatique vraiment à hauteur des enjeux ?
Donc ce que montre l'ONU, c'est qu'il nous faudrait 150 milliards, et aujourd'hui au niveau mondial, on est à 10 milliards.
Oui, donc on en est très très loin. Hervé Kempf, certainement de nouvelles discussions aussi pour la COP21.
Oui, quand même, pas dans les 3 semaines, mais ça contribue à changer la donne et à dire il y a un problème social et il faut l'aborder sous ce prisme-là. Deuxièmement, ça renforce tous les mouvements de la société civile qui disent justice climatique, justice sociale. On ne peut pas séparer la question sociale et la question climatique. Et puis très concrètement, quand même, des évolutions autour du fonds vert et du financement d'adaptation et d'atténuation. Et aussi la question du transport aérien qui est pour l'instant totalement en dehors des discussions, en dehors de la taxation, alors que c'est un contributeur de plus en plus important aux émissions de gaz à effet de serre.
Merci Lucas Chancel avec Thomas Piketty. Donc cette étude qui vient tout juste de paraître, qui donne un éclairage effectivement très intéressant autour de cette question climatique. Merci beaucoup.
Merci à vous
d'être venu. Reporter.net, évidemment Hervé. La COP approche, 3 semaines, et nous serons ensemble évidemment au Bourget pour suivre cet événement mondial. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, après la Suède et le Royaume-Uni, la greffe d'utérus est désormais possible en France. L'Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament vient d'en autoriser un essai clinique pour une équipe du CHU de Limoges. 8 femmes souffrant de stérilité utérine recevront en 2016 l'utérus de donneuse en état de mort cérébrale. En Suède, la greffe d'utérus issue de donneuses vivantes s'est concrétisée par la naissance d'un enfant en octobre 2014. Quant à la France, donc le premier bébé né suite à une greffe d'utérus ne devrait pas voir le jour avant 2018. L'e-sport va être reconnu comme un véritable sport, c'est ce qu'a annoncé la secrétaire d'État au numérique Axel Le Maire, qui a dévoilé vendredi les principaux points de sa loi sur le numérique. La reconnaissance du jeu vidéo en ligne ou de tournois en réseau local comme sport traditionnel faisait partie des mesures les plus sollicitées par les internautes, avec plus de 100 000 participants. La secrétaire d'État a expliqué que ce nouveau statut va permettre au sport électronique de ne plus être assimilé au jeu d'argent en ligne, d'être légalement encadré et d'assurer la dynamique économique de ce secteur. Et puis pour assurer leur paternité, des araignées mutilent les organes génitaux des femelles. C'est ce que révèle une étude allemande qui a observé qu'après l'accouplement, les femelles de l'espèce sibérienne l'araignée Bosnie à Gescovie n'avaient plus leur scapus, une petite excroissance qui se trouve au-dessus des organes génitaux, en l'empêchant d'avoir d'autres partenaires sexuels. Le mâle s'assure ainsi d'être le père de toute la progéniture. Cette perte d'organes pourrait être une aubaine pour les femelles. Les scientifiques cherchent notamment à démontrer qu'elles seraient ainsi moins harcelées par les autres mâles et qu'elles ne verraient pas leur fertilité entravée en stockant le sperme viable pendant des années. Allez, comment mieux se comporter pour la protection de l'environnement? Dossier de la tête au carré dans un instant, juste après le gouffre et bagarre.
Tu penses que ta vie est sans grande importance, que les mots qui te viennent n'ont pas vraiment de sens. Dans ta tête, y a des bruits, tu te sens animal. Tu restes dans ton lit quand tu dis je t'as mal. En piqué, tu plonges sans en avoir l'air. Je sais pas ce qui te ronge, c'est pas très clair. Je sais pas ce qui te ronge, mais tu t'en tais.
Jusqu'à 15h sur France Inter.
Comment mieux se comporter pour protéger l'environnement? C'est donc le dossier cet après-midi de l'émission en partenariat avec le CNRS pour en parler, comprendre les relations d'abord que nous entretenons avec la nature et puis découvrir les motivations peut-être qui peuvent nous permettre d'agir. Je reçois Barbara Bonnefoy, vous êtes maître de conférence au LAPS, c'est le laboratoire parisien de psychologie sociale au sein de l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Anne-Caroline Prévost, vous êtes chercheuse au CNRS, au Muséum National d'Histoire Naturelle également, et vous êtes directrice de recherche recherche au LESCO. C'est le Centre d'écologie et des sciences de la conservation, c'est bien ça ?
CESCO plutôt.
CESCO, au sein de l'équipe socio-écosystème. Et puis enfin Brigitte Perruca, vous êtes directrice de la communication du CNRS. Et Lucas Chancel, vous êtes resté avec nous parce que le sujet vous intéresse, donc vous êtes le bienvenu. Vous pourrez intervenir si vous le souhaitez. Brigitte Perruca, le CNRS donc, qui organise pour la troisième année son grand forum. Que reste-t-il à découvrir les 13 et 14 novembre, donc vendredi et samedi à la Sorbonne à Paris? Deux journées de rencontres, 100 chercheurs pour des discussions autour des changements climatiques. Donc ça veut dire que vous avez mobilisé quasiment une bonne partie, en tout cas des chercheurs du CNRS qui travaillent sur cette question climatique.
Alors je dirais une petite partie parce qu'en fait on a évalué récemment qu'il y avait à peu près 2000 chercheurs dans les laboratoires unités mixtes qui travaillent sur ces questions. Nous, ce qui nous intéresse au CNRS, c'est de montrer à la fois l'ampleur et l'amplitude de toutes ces recherches, parce que bien évidemment il y a les questions climatiques que vous contribuez, Mathieu, à beaucoup faire connaître, toutes ces découvertes sur l'origine anthropique du changement climatique. Mais nous, on va beaucoup plus loin parce que justement, on est le CNRS et on est interdisciplinaire. On parle des matériaux, on parle de l'énergie, on parle des villes, on parle des océans, on parle de littérature.
Mais nous aussi, on en parle.
C'est plus inattendu. Mais je veux dire, en rapport avec le climat. En rapport avec le climat. Donc, pour pas effrayer, on appelait ça changement climatique, mais on aime bien dire changement globaux parce qu'en fait, cette histoire de changement climatique va impacter énormément de choses dans nos vies, dans nos modes de vie. Oui. Et d'ailleurs, on va en parler un instant avec vos invités.
Et c'est déjà le cas. L'impact existe déjà un peu partout dans le monde. Et le but, là, c'est vraiment d'échanger entre le public et les chercheurs.
Absolument, c'est d'échanger. Il y en a une centaine. C'est de montrer qu'il y a une énorme antériorité. Enfin, les savants, les chercheurs français, et pas seulement, bien sûr, travaillent depuis plus de 30 ans sur ces questions. Donc, évidemment que c'est une de nos missions, c'est de faire connaître ces recherches et y compris celles les plus avancées comme les sciences du comportement. Donc ne rien oublier, partager, discuter, faire aussi en sorte que des documents puissent être montrés. Ça, c'est un peu nouveau dans le forum. Ouais. Donc voilà, je voudrais inviter tous ceux que ça intéresse et j'espère qu'ils seront nombreux à venir s'inscrire sur le site parce que à cause de ces questions de Vigipirate, on est très coincé pour les questions de sécurité.
Donc c'est gratuit.
C'est gratuit, c'est ouvert du vendredi matin jusqu'au samedi soir. Il y a vraiment, je crois, une belle offre, mais venez vous inscrire sur le site.
Voilà, donc à la Sorbonne, les pôles sentinelles du réchauffement climatique, par exemple, les océans, la sonnette d'alarme, ou la ville, justement, peut-elle devenir durable, parmi les nombreuses questions et tables rondes qui seront présentées. Absolument. Et c'est leforum.cnrs.fr, Brigitte Perruca, pour s'inscrire, justement, et tout le programme, vous pourrez le découvrir en même temps. Merci, Brigitte Perruca.
Merci à vous.
On va discuter donc avec nos invités, Barbara Bonnefoy et Anne-Caroline Prévost. Est-ce que la psychologie sociale, Barbara Bonnefoy, justement, étudie depuis longtemps ces questions que les hommes entretiennent justement avec la nature, ces relations en tout cas ?
Oui, alors c'est il y a une sous-discipline qui a émergé dans les années 60-70, qui est la psychologie de l'environnement. Et qui est né un petit peu avec l'urbanisation massive. Et des architectes, des psychologues, des médecins se sont intéressés à l'impact en fait de l'homme sur l'environnement et l'inverse. Oui. L'impact de certains environnements sur le bien-être humain. Donc oui, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est né dans les années 70.
Ouais. Donnez-nous un exemple de recherche que vous menez justement au LAPS, laboratoire de psychologie sociale, dans ce domaine, pour comprendre un petit peu justement ce que vous étudiez.
Il y a une de nos doctorantes, Delphine Labousse, qui va soutenir sa thèse vendredi. Et nous avons travaillé en fait sur les liens entre le contexte organisationnel, et notamment sur la justice perçue chez les salariés, et leur intention d'adopter des comportements écologiques au travail.
Ouais.
Voilà. Et donc on a donc c'est essentiellement des travaux de laboratoire, enfin à la fois de terrain et de laboratoire, où on a reproduit des contextes justes ou injustes de façon expérimentale et on a essayé de voir si les personnes soumises à ces contextes allaient ou non suivre des directives,
agir
en suivant des directives.
Ouais, alors par exemple.
Mettre son... Alors, c'est des petits gestes, bien sûr, mais trier ses déchets, ne pas imprimer des mails, mettre des écrans... mettre son ordinateur en veille, économiser l'eau, ce genre de choses.
Et on verra que, évidemment, ces initiatives dépendent du contexte dans lequel
on
travaille.
Tout à fait, voilà. C'est vraiment, nous, un petit peu, on travaille beaucoup sur les contextes normatifs, en fait. Ouais.
Anne-Caroline Prévost, vous êtes écologue de formation et vous travaillez donc à l'interface entre la biologie de la conservation et la psychologie de la conservation. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit aussi les disciplines qui se croisent, qui, a priori, n'avaient pas grand-chose forcément à se dire et qui, là, ont tout leur sens dans ces recherches.
Effectivement, donc ce qui m'intéresse, c'est de confronter un petit peu les deux, enfin surtout de mettre les deux en complémentarité pour enfin peut-être essayer de trouver des solutions, en tout cas proposer des pistes. Donc la biologie de la conservation, c'est une discipline qui vient de l'écologie scientifique et qui essaye de comprendre les impacts des activités humaines sur la dynamique de la biodiversité ou de la nature. Et la psychologie de la conservation, c'est un espèce de champ, on va pas dire une discipline, mais un champ disciplinaire qui vient de la psychologie et qui essaye de comprendre pourquoi et comment les humains pourraient modifier leur comportement vis-à-vis de la nature notamment. Ouais. Donc évidemment, quand on met les deux ensemble, ça permet probablement de faire des choses vraiment intéressantes. Ouais. C'est aussi pour ça que je travaille beaucoup avec Barbara Bonnefoy, justement, sur ces questions-là, pour essayer de comprendre ensemble comment est-ce qu'on pourrait proposer des scénarios.
Alors meilleurs. Là aussi, exemple concret de recherche que vous menez.
Alors pendant plusieurs années, j'ai travaillé non pas à conserver la biodiversité, mais sur la place d'une espèce vraiment particulière en ville, qui est le pigeon.
Ah oui, que les urbains adorent. Je pense qu'il fallait en parler quand même. Oui, c'est ça.
Et donc on a eu à la fois un angle de biologie, donc comment est-ce que les pigeons survivent, où ils se déplacent, comment est-ce qu'ils se reproduisent, en fonction de tout ce que les humains leur font. Et puis un angle plus sciences sociales sur qui essayait d'expliquer quel était le comportement des citadins, mais aussi des différents groupes comme les gens qui nourrissent les pigeons ou les autorités locales, sur la biologie de cette espèce. Et on essaye de voir comment est-ce qu'on pourrait mettre les deux en cohérence.
C'est ça. Donc grâce à vous, on pourra regarder les pigeons vraiment d'une autre façon.
J'espère bien.
quand on traverse les villes un petit peu partout. Lucas Chancel, c'est intéressant dans toutes ces disciplines aujourd'hui qui ont des choses à se dire sur ces questions de changement climatique.
Tout à fait. Je pense que dans le domaine de la... Dans ces domaines qui mélangent psychologie, écologie, économie, il y a une question qui m'intéresse particulièrement, c'est celle des effets de mimétisme. Est-ce que certains groupes sociaux, influencés par ceux qui sont au-dessus d'eux dans la pyramide des revenus, dans la pyramide des classes sociales, vont adopter des comportements, des modes de vie, des modes de consommation comme ceux qui sont au-dessus d'eux, et quel va être l'impact de cela sur l'environnement? Il y a assez peu d'études là-dessus, c'est assez difficile à mesurer, mais les quelques études, à ma connaissance, qui mesurent ça, montrent que les sociétés plus inégalitaires sont des sociétés qui ont un impact carbone plus fort que les sociétés qui sont plus égalitaires.
Ouais. Barbara Bonnefoy, est-ce qu'il y a un effet de mimétisme alors
bien
ou pas?
Bien sûr, bien sûr. Alors nous,
dans les actes vertueux, par exemple.
Oui, et dans les actes non vertueux, également, aussi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que, alors, c'est plus des travaux de sociologie, mais en psychologie, c'est pas forcément appliqué à l'environnement, mais dans d'autres domaines, on voit bien que la classe dominante, c'est la classe qui parfois sert de modèle, notamment de modèle de consommation. Donc on consomme ce que les dominants nous disent de consommer. Et donc, s'ils consomment, bien sûr, des choses qui sont polluantes ou dont l'impact
de nature
est
voilà,
eh bien, alors on fait pas forcément le lien, hein, on dit pas qu'on fait comme eux pour détruire la planète, bien sûr, mais voilà, bien sûr, et donc c'est une vraie question d'inégalité.
Anne-Caroline Prévost, donc la crise environnementale, dont l'exemple le plus saillant est cette question du changement climatique, est évoquée à longueur de journée, particulièrement en ce moment, évidemment, avec la COP21. Donc le danger est connu, il est très bien documenté scientifiquement, mais rien n'y fait. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous ne se sentent pas concernés, justement, par cette crise de la biodiversité. Comment vous expliquez ça? Vous avez étudié cette question, justement?
Il y a énormément de réponses possibles à cette question. Moi, je l'ai étudié, ou en tout cas, je m'intéresse à ça avec mes étudiants actuellement et mes doctorants, sous l'angle du contact qu'on a de façon individuelle avec la nature. Et notamment, on étudie ce que des auteurs américains comme Miller ont exposé comme étant l'extinction de l'expérience de nature. Ouais. Donc, je peux essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, l'idée, c'est que, avec nos modes de vie, donc, essentiellement en ville, mais aussi avec des modes de vie plus actifs, moins en lien directement, sans prendre le temps de se poser dans l'herbe, par exemple. Les enfants sont moins de moins en moins en contact avec la nature au quotidien. Donc ils sortent moins, ils vont moins jouer dehors. Et ensuite, une fois, du coup, ils intègrent de moins en moins la nature dans la construction de leur identité. Ce qui fait que quand ils deviennent adultes, ben, ils ont moins forcément besoin ou envie de protéger cette nature, ou en tout cas de l'avoir toujours à côté d'eux. Et du coup, par ricochet, les politiques publiques protègent moins la nature. Et on est dans un cercle vicieux qui peut s'appeler extinction de l'expérience.
Et ça, on a déjà le recul pour l'observer, donc.
Alors, il y a quelques éléments indirects pour l'observer. C'est-à-dire que c'est difficile de demander aux gens qui habitaient là il y a 100 ans, évidemment, ce qu'ils en pensaient. Mm-hmm. Mais on a quelques pistes, quelques pistes qui disent que oui, ça, c'est comme ça que ça se passe. Quoi.
Écoutons la voix de Pierre Rabhi, c'était en janvier 2014.
On a décidé de ne pas consacrer toute ma vie à recevoir un salaire en attendant la retraite. Bon, donc c'était une désaliénation. Déjà, la ville me paraît être une espèce de macrocosme hors sol, qui ne me semble pas très en adéquation avec la nature humaine, déjà, d'être enfermé toute sa vie dans un appartement, dans un machin, déjà, ne me convenait pas très, très bien. Gagner ma vie, ben, ça voulait dire qu'il aurait fallu que je dispose de compétences utiles au système. Or, je n'avais pas de compétences utiles au système. J'avais fait beaucoup de philosophie, mais si ça ne semblait pas intéresser mon employeur. Choisir d'être agriculteur, ça veut dire, c'est choisir, en quelque sorte, de rentrer en plein dans le contexte de la vie et des phénomènes de la vie. C'est-à-dire que c'est en fait la biosphère, l'écologie, celle qui vous a donné naissance, et à moi aussi.
Voilà la voix de Pierre Rabhi, Barbara Bonnefoy. Vous voulez commenter juste ce qu'il vient nous dire par rapport à cette déconnexion, cette sensibilisation et le fait d'être de plein pied dans la vie quand on est justement plutôt dans la nature,
hein. Oui, effectivement, on réalise également des travaux sur ce lien avec la nature, et où on s'interroge sur la place que l'individu se donne dans l'écosystème. Est-ce que la nature, c'est quelque chose que j'observe et je m'extrais de cet élément, et c'est plutôt la tendance finalement de nos sociétés, en fait, on oppose l'individu à la nature, et puis à l'extrême, c'est je fais partie intègre de l'écosystème, et c'est ce que nous dit un peu Pierre Rabhi tout à l'heure, c'est à un moment donné, lui a décidé consciemment de faire partie de l'écosystème, et voilà, toute son expérience montre que les hommes ont été intégrés à son aventure, quoi, et c'est ce qui a permis de... Voilà. Donc il y a un petit peu les deux extrêmes, et voilà. Et ça modifie bien sûr notre rapport à ces questions d'écologie et nos comportements, bien évidemment.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre discussion, avec les messages des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr.
My heart is waiting, taken from the sea.
Voilà, extrait du dernier album de Beyrouth avec No, No, No.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Protection de l'environnement, comment mieux nous comporter avec Barbara Bonnefoy et Anne-Caroline Prévost et Lucas Chancel qui est également avec nous pour répondre aussi à vos messages. Pierre nous envoie ce courriel, nous dit ceci: en France métropolitaine, les espaces vraiment naturels, non anthropiques, n'ayant pas changé depuis des milliers d'années, existent-ils encore en dehors de quelques espaces de haute montagne? Barbara Bonnefoy ou Anne-Caroline Prévost? Anne-Caroline Prévost pour commencer.
Non, en France, on ne peut pas dire qu'il existe encore des espaces vraiment naturels. Mais d'un autre côté, dans le monde dans lequel on vit, il n'y en a plus vraiment beaucoup, des espaces vraiment naturels. Et sur le sujet qui nous intéresse, changer nos comportements en étant plus en contact avec ce que moi j'appelle la nature, demande pas forcément des espaces vraiment naturels.
C'est-à-dire, on peut faire des choses en ville.
On peut faire des choses
c'est
en
ça,
ville.
C'est ce que vous étudiez, et en fait, que vous scrutez de près.
Donc j'étudie plus ce qui se passe en ville, et loin de moi l'idée de dire qu'il faudrait que tout le monde parte à la campagne pour être plus proche de la nature, surtout pas. Mais avec tous les gens qui habitent en ville, par contre, on pourrait remettre un peu de nature dans les villes. Mais du coup, c'est évidemment pas un espace vraiment naturel, mais ça peut être laisser la flore spontanée grandir sur les trottoirs, accepter qu'elle existe, ce qui est en train de se faire dans beaucoup, beaucoup de villes françaises. Remettre des parcs urbains ou des petits squares même dans lesquels les enfants peuvent venir jouer et crapahuter. Mais en plus de les installer, il faut aussi peut-être les laisser à disposition des urbains. Et actuellement,
il y a des villes qui font ça très bien d'ailleurs.
Il y a des villes qui font ça très bien.
Qui sont plus douées que d'autres.
Il y en a d'autres qui font ça
Berlin,
moins bien.
Berlin en particulier.
Donc effectivement, avec Zina Scandrani, une doctorante, on a étudié les différences de gestion des parcs urbains à Paris et à Berlin. Et pour les mêmes grands objectifs des deux villes, qui sont à la fois augmenter la biodiversité en ville et éduquer les citadins, les façons de faire sont assez diamétralement opposées, puisque à Paris, les parcs sont là, et certains y sont gardés, fermés la nuit, et certains espaces dans les parcs sont dévolus à la biodiversité, donc interdits d'accès, et d'autres sont dévolus aux activités humaines. Et à Berlin, les parcs sont ouverts tout le temps. Il n'y a pas de garde, tout est permis, presque.
Presque, oui, quand même, quelques nuances près.
Et surtout, les parcs sont gérés par des comités de citoyens, donc d'usagers qui participent à la gestion. Et il n'y a pas d'espace réservé à la biodiversité et d'espace réservé aux activités humaines.
Quelles conséquences alors entre ces deux villes, justement, par rapport à leurs différences?
Alors, évidemment, ces deux façons de faire sont aussi liées à des cultures. On ne peut pas appliquer à Paris ce qui se passe à Berlin sans avoir tout de suite, parce qu'on n'est pas du tout dans la même façon de faire. Mais quelles conséquences, a priori, il y a autant de biodiversité, c'est-à-dire de nature sauvage et non entretenue à Paris qu'à Berlin. Donc, on peut avoir deux façons de faire pour protéger la biodiversité. Par contre, la différence de ces deux façons de faire dans la reconnexion des citadins avec la nature, à mon avis, sont très importantes. C'est-à-dire qu'à Berlin, les citadins et peut-être aussi les enfants sont plus en contact, un contact plus facile et probablement un contact plus facile et plus direct avec cette nature qui nous entoure.
Est-ce qu'il vous semble quand même qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui des citoyens et quand même un certain nombre d'actions qui se multiplient, Barbara Bonnefoy?
Oui, je pense que la sensibilisation en tout cas, alors la prise de conscience à quoi, enfin... C'est un peu plus difficile à répondre, mais en tout cas, la sensibilisation à ces questions d'environnement, d'écologie, de réchauffement climatique existe.
Ouais.
Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est même socialement valorisé, puisque de nombreuses entreprises se mettent au vert, entre guillemets, pour faire vendre leurs produits.
Donc, justement, oui, évidemment.
Donc c'est une question, bien sûr, socialement très valorisante.
Ouais. Lucas Chancel, justement
Même si on regarde très récemment, là, il y a eu le vote du budget participatif de la ville de Paris.
Oui.
Une bonne partie des projets proposés étaient des projets qui touchaient à l'environnement. Oui. Et certains essayaient même de mélanger environnement et social. Donc je trouve ça assez intéressant. Et on peut aussi voir du côté allemand, on parlait de Berlin, les particuliers se mettent à investir dans les énergies renouvelables. Et en fait, en Allemagne, 50% des nouveaux investissements en énergie renouvelable sont le fait de particuliers, d'individus. Soit sous forme de coopératives, soit individuellement. Mais on voit que les gens commencent effectivement à agir.
Philippe nous dit ceci, est-ce que l'architecture et l'urbanisme peuvent avoir une action sur le comportement justement des citoyens? Anne-Caroline Prévost et puis Lucas Chancel, vous aurez également des choses à nous dire à ce sujet.
En termes d'urbanisme, probablement et fortement, notamment dans la conception des nouvelles villes, des nouveaux bâtiments, qui acceptent la biodiversité ou la nature sauvage directement au début de la conception et pas juste à la fin comme cerise sur le gâteau. Ça, ce serait vraiment intéressant. Et à ce moment-là, si la nature s'invite directement dans nos cadres de vie, probablement que la façon de la voir va changer, que les normes vont changer, qu'on va accepter et d'avoir plus de nature et que ce soit moins sale, entre guillemets, d'avoir des trottoirs avec de la végétation qui pousse, par exemple, ou sur les toits des immeubles, ou même sur les murs des immeubles.
Mais c'est un changement de perception aussi, ça. Exactement. Dans ce rapport.
Mais une fois qu'on aura changé, pour moi, le changement de perception, c'est une des clés pour changer de comportement.
Lucas Chancel, architecture, urbanisme.
Oui, tout à fait. Je vais peut-être revenir à un exemple qui fait le lien aussi avec la question des inégalités dont on parlait au début de l'émission. En 2010, la taxe carbone proposée par Nicolas Sarkozy a été rejetée et n'a pas été du tout acceptée par l'opinion publique, en mon sens, parce que cette taxe était jugée comme très inégalitaire, c'est-à-dire défavorisant les ménages périurbains, ruraux, qui en fait n'ont pas le choix, n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler, pour aller faire les courses. Donc là, on voit que l'organisation de la ville ou une réorganisation de la ville permet d'ouvrir des choix individuels. Donc c'est bien l'architecture, l'urbanisme qui permet de débloquer des choix qui aujourd'hui sont contraints. Donc on voit que les deux niveaux sont absolument essentiels, le choix de l'individu, mais aussi le bulletin de vote pour changer les infrastructures.
Et influencer nos comportements.
Et influencer en retour nos comportements.
Par ricochet. Barbara Bonnefoy.
Oui, et ce que je peux ajouter, c'est que sur l'architecture, bien sûr, il y a énormément d'innovations qui sont faites par les ingénieurs, par les architectes, pour construire des logements individuels ou collectifs très performants du point de vue énergétique et également innovants du point de vue social pour amener les gens à vivre différemment et à adopter des comportements plus respectueux. Donc, effectivement, l'architecte et l'ingénieur ont un rôle important à jouer.
Ouais, Pierre Decamp nous dit que les problèmes environnementaux restent sans doute lointains ou abstraits pour beaucoup de gens qui pensent a priori égoïstement que l'humain serait finalement peu affecté. Est-ce que c'est une des raisons justement pour lesquelles les actions individuelles paraissent compliquées à mettre en place lorsqu'il s'agit d'environnement? C'est ce décalage
Oui, je pense que là c'est vraiment la question. Alors je dirais là c'est la prise d'information et comment justement les informations entrent dans le débat aussi. Mmh. Par exemple tout à l'heure votre chroniqueur parlait des chiffres records. C'est des informations donc importantes, primordiales, mais très complexes à intégrer puisque ce sont des chiffres qui ne suscitent aucune représentation, absolument aucune. Quand on parle d'un record de gaz à effet de serre au niveau de la planète, c'est inimaginable. Et la majorité des questions, notamment liées au réchauffement climatique, sont inimaginables. C'est vraiment et donc on est à un niveau d'abstraction tel. Comment je fais dans ma cuisine ou quand je suis au champ pour choisir un produit respectueux de l'environnement, donc on demande finalement lorsqu'on se place dans une logique individuelle, on demande finalement à des gens de jongler entre des niveaux d'abstraction intenses et puis des choix qui sont compliqués à faire. Ouais. Donc
le concret et l'abstrait finalement, Lucas Chancel, l'abstraction totale dans ces chiffres qui n'évoquent rien, c'est vrai.
Tout à fait.
Pour les non spécialistes.
Et ce qu'on voit, c'est que la Californie, par exemple, commence à agir massivement sur l'environnement parce que problème de sécheresse, parce que problèmes environnementaux. C'est pareil en Chine. Les dégâts environnementaux qui arrivent déjà, qui sont déjà perceptibles, qui font que les populations ou les politiques se bougent. Peut-être qu'en France, c'est la bonne et la mauvaise nouvelle d'événements comme les inondations dans le Var.
Voilà,
la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est en train de se les prendre sur la tête. La bonne nouvelle, c'est que peut-être que ça va accélérer la transition.
Malheureusement. Allez, on se retrouve dans un instant, la suite de ce dossier, en partenariat avec le CNRS, et puis vos messages, franceinter.fr, et le mot-clé, l'attaque.
Opportunity for all to say. pioneers, but time will not allow us to forget now. But as Basie Miller said to Moe and the King of Ossadoo, and with a voice like Alice ringing out, there's no way the band could lose.
C'est bien de trier les déchets, le plastique, le carton.
Se déplacer un maximum avec les transports en commun.
Je prends le vélo quand je peux.
Rouler le moins souvent. Hein. Arrêter le moteur, voilà.
J'essaie d'éteindre assez fréquemment les lumières.
J'ai lampe à économie d'énergie aussi. J'ai fait l'investissement.
Mettre de l'eau dans un verre lorsqu'on se brosse les dents.
Des robinets spéciaux avec des embouts qui consomment moins.
Limiter le nombre de bains, prendre plutôt des douches.
J'apprends à mon petit-fils de 3 ans et demi à ne pas gâcher l'eau.
À la maison, j'ai fait faire des récupérateurs d'eau pour m'en servir, pour arroser.
Le tri sélectif.
Je recycle tout ce que je peux recycler.
Limiter les emballages.
Sinon, on prend des sacs plastiques qu'on peut réutiliser à la place de sacs plastiques. C'est plus pratique et c'est un peu moins polluant. On peut s'en resservir.
Voilà les petits gestes en réponse à une question. Que faites-vous pour la planète? C'était un micro-trottoir réalisé en 2010. Barbara Bonnefoyne, Caroline Prévost et Lucas Chancel pour nous expliquer, pour nous dire comment on peut justement participer, se comporter pour protéger l'environnement. Barbara Bonnefoyne, justement, votre spécialité, c'est d'étudier dans quel contexte on peut agir. Là, ces petits gestes, ils sont influencés par quoi alors exactement? Est-ce qu'ils sont connectés à des choses très concrètes? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait le lien entre le tri à la maison et l'ours blanc qui dérive sur la banquise ou pas?
Non, je ne pense pas qu'on fasse le lien. Par contre, c'est-à-dire ce fameux ours blanc, il peut donner du sens en fait à ce qu'on fait. C'est-à-dire, on peut... parce que c'est vrai que dans le petit micro-trottoir, là, beaucoup de gens parlent du tri. Et je pense que beaucoup d'efforts de communication, d'explication, d'incitation étaient faits à destination du tri.
Oui.
Et bien sûr, donc on a...
Le message a été plutôt pas mal reçu.
Très bien reçu et on peut donner un sens abstrait, bien sûr, à ce qu'on fait. Mm-hmm. Donc on peut décider de sauver cet ours ou de permettre aux Inuits de continuer à vivre dans leur environnement. Bon, voilà, on peut donner un sens qui n'est pas forcément connecté à ce qu'on fait aujourd'hui. Oui.
Et alors le contexte, parce que ça c'est l'objet de votre travail. Faire un geste précisément.
Nous, ce qu'on essaie de faire dans notre laboratoire, c'est de voir si il existe certains déterminants qui vont permettre à un individu de résister ou non au contexte. Mmh. Et alors le parti pris qu'on a pris, c'est de travailler sur les habitudes. Et notamment pour voir si des gens qui ont de fortes habitudes dans un domaine vont être plus influençables que d'autres, que ceux qui n'en ont pas dans un autre domaine. Alors dans d'autres domaines ça fonctionne, mais dans le domaine de l'environnement également, c'est-à-dire que les gens qui ont de fortes habitudes résistent à des contextes qui n'incitent pas. Par exemple, bon, je ne sais pas si vous allez à la piscine, je pense que peu de nageurs pensent à économiser l'eau au moment où ils prennent leur douche à sortie de beaucoup de personnes restent une heure sous l'eau parce qu'ils ont froid et peu font le lien entre l'énergie qu'il faut pour chauffer cette eau chaude et les émissions carbone. Le lien ou simplement les économies d'énergie. Donc, et à la piscine, à ma connaissance, il n'existe aucun message qui incite les personnes à avoir des comportements de réduction de l'eau et qui explique éventuellement... Bon, trier ses déchets, bon, là, j'en parle même pas, mais par exemple, voilà, simplement économiser l'eau. On peut aller à la piscine en triant ses déchets tous les jours, en allant à la piscine en vélo, en mangeant bio et local, et puis rester une heure sous la douche et pas faire forcément le lien. Donc, c'est ça un petit peu les contextes qui peuvent inciter ou non à agir.
Alors, dans le contexte professionnel, dans une entreprise, par exemple, si vous avez une de vos thésardes, hein, je crois, qui a créé des scénarios assez différents pour voir justement ce qui nous amène dans, au travail, en tout cas, avoir des gestes.
Là, l'hypothèse qu'on a poursuivie, c'était la question, donc ce que je disais tout à l'heure, de la justice. Comment les salariés peuvent se sentir traités justement ou injustement, et selon cette perception ou cette non-perception, enfin cette perception d'injustice, on a vu que les salariés pouvaient se venger. Enfin, alors bien sûr, c'est une façon d'appréhender la question, mais se venger entre guillemets en refusant les incitations écologiques qui étaient demandées.
Oui. Mais ils se vengent de quoi? De leur entreprise, malheureusement, au détriment de...
Alors non, ils se vengent pas de l'entreprise, en fait. Donc après, je peux rentrer dans les mécanismes de régulation émotionnelle, mais lorsqu'on est traité injustement, on a des émotions...
On sera moins apte à faire des efforts.
C'est-à-dire, non, au départ, on a des émotions négatives. C'est très désagréable, quand même, d'être victime d'injustice, surtout à son travail. On est dans des émotions négatives, on peut se sentir dévalorisé. Et pour retrouver un certain contrôle de soi, enfin une certaine estime de soi ou un certain contrôle sur sa vie, etc. Eh bien, on fait des petites actions qui vont nous permettre, donc on ne va pas répondre à certaines injonctions, notamment en faveur de l'environnement.
Paul Sautebin a tourné le dos à la société de consommation pour aller dans une ferme à la Ferrière. C'est dans le Jura suisse. On l'écoute.
Tourner le dos à la routine signifie le renoncement à la télévision, à Internet, aux ordinateurs et bien sûr au téléphone portable. Mais vivre la décroissance au quotidien n'est pas de tout repos pour autant. Le couple travaille à la ferme 10 à 12 heures par jour, presque toute l'année.
J'ai pas perdu de confort en fait, j'ai gagné du confort. Le confort, c'est de se sentir bien le matin ou la journée, se sentir le plus juste possible. Avec ce qui est notre environnement, de tout, autant les techniques que la nature, que tout ça, c'est ça le confort. C'est d'être en harmonie avec le temps qu'on passe à vivre. Ça, c'est l'essentiel.
Lucas Chancel, la décroissance, c'est la solution à tout ou pas?
Vaste sujet.
Attention, vous avez 30 secondes pour y répondre.
Écoutez, l'intérêt de ce genre de mouvement, c'est de s'intéresser à la question des consommations, c'est de s'intéresser à la question du gaspillage, c'est de s'intéresser à la question de l'obsolescence planifiée, de qu'est-ce qu'on consomme, pourquoi est-ce qu'on le fait, et d'apporter une réflexion philosophique derrière nos modes de consommation. Donc à partir de là, on peut être d'accord ou pas avec est-ce qu'il faut décroître le PIB ou pas. Je vais pas pouvoir traiter de ça dans les 10 secondes qui me restent, mais je pense que c'est intéressant en tout cas d'ouvrir ce champ de questions.
Allez, débat donc avec le CNRS et ce forum donc vendredi et samedi. En l'occurrence, ce sera samedi de 10h30 à midi en votre compagnie Barbara Bonnefoy et Anne-Caroline Prévost. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans le dossier de la tête au carré.